Tous ou Rien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de F. Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucie, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction, l'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Mesdames et messieurs, vous êtes bien au mauvais endroit. Revue de la société éraclurante aux gens. Applaudissez des pattes ou des crochets pour le plus meurtrier, le plus affreux et le plus sanglant spectacle que vous verrez de toute votre vie.
Biophilo Panclasta. Vagabond solitaire et explosif de la fin du deuxième millénaire après J.C. J.C. sont souvent les initiales de personnages influents dans leur domaine, un peu comme Julien Courbet dans la littérature ou Jacques Cheminade dans l'avenir, pour n'en citer que quelques-uns. Depuis la rencontre géologique entre l'Amérique du Nord et celle du Sud, cette dernière s'est peuplée d'espèces animales qui n'étaient pas encore présentes sur son sol. D'autres disparaissent. Arrivant du Nord, le lama s'installe et fait souche au Sud, puis disparaît du Nord. Les mammifères marsupiaux reculent sur l'ensemble du continent et déclinent face à l'expansion des mammifères placentaires. L'arrivée des hominines n'est pas datée précisément. Et les routes utilisées pour cette implantation sont des sujets de controverses sérieuses entre les spécialistes. N'y a-t-il eu que les chemins terrestres, venus du nord, ou les hominines se sont-ils implantés à partir du sud, venant de la mer? Ou les deux? Sont-ils passés du nord au sud, ou l'inverse? À pied ou par cabotage? Quelle que soit l'hypothèse, la certitude partagée est l'existence d'hominines dans les parties nord et sud du continent américain, depuis des dizaines de milliers d'années. Lorsque les hominines venant d'Europe arrivent en Amérique du Sud, vers la fin du XVe siècle après J.C., et elles y trouvent de vastes sociétés organisées et des États puissants. Dans la confrontation qui s'ensuit, ces derniers perdent le contrôle politique sur les populations au bénéfice des hominines d'Europe, qui instaurent de nouvelles formes d'organisation politique. Exploitées et soumises depuis des siècles par les pouvoirs politiques locaux, les populations d'hominines se retrouvent dorénavant dominées par différents États européens, implantés durablement sur le sol sud-américain. L'Espagne et le Portugal sont les premiers à prendre pied sur ce sous-continent, puis les Pays-Bas et plus tardivement la France, l'Angleterre, puis les États-Unis d'Amérique du Nord. Pendant des siècles, ces territoires conquis sont gérés comme des zones périphériques, des colonies où les ressources naturelles sont pillées, afin de bénéficier aux métropoles européennes. Et les populations locales sont administrées avec encore plus de violence que celles d'Europe. Des millions d'hominines mâles et femelles sont importés d'Afrique pour être mis en esclavage dans les cultures et les mines de ces colonies. Quoi qu'en disent les déclarations d'intention, les discours racistes ou les considérations religieuses, les hominines d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Europe se métissent. Hormis les histoires singulières, le brassage se fait selon les stratifications sociales qui s'établissent au long de la colonisation. Le racisme des hominines d'Europe impose une hiérarchie entre les différentes populations et métissages. Mâles ou femelles, les esclaves africains et les amérindiens sont au bas de cette échelle. Puis viennent les métis, des uns ou des autres avec des Européens qui n'hésitent pas à se toiser entre elles.
Isabelle, la catholique, reine de Castille, habite le siècle numéro 15. Elle épouse Ferdinand, roi d'Aragon, à qui elle est fiancée dès l'âge de 3 ans. C'est un mariage éperdument heureux. Un beau jour à la cour débarque Cristobal, le rital, avec un projet béton. Il dit « Mais non, le monde n'est pas moins rond que mes couilles !» La reine est séduite. La légende raconte même qu'elle aurait vendu ses bijoux pour financer le départ de la Pinta, la Niña et la Santa Maria, à bord desquels Cristobal Colombo et son équipe de 90 bonhommes prenaient le large pour aller découvrir ces Indiens qui vivaient tout nus. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Ça fera un soda, un cappuccino, une bolognaise, un chocolat suisse, une petite frite belge et une Philip Morris. Entre autres, chasse à l'homme, chasse au trésor, balle aux prisonniers, esclavage, torture, pillage, contamination, viol et autres rois du silence sur fond d'Ave Maria. Mais fort heureusement, vers la fin de sa vie, Isabelle la catholique rédige un testament dans lequel elle prie le roi Ferdinand, son veuf de mari et ses descendants, de traiter dignement les Indiens. Tout est bien, qui finit bien. Et puis 600 ans plus tard...
Didai à la prod, que conga cuente con mi voz.
Elles sont revenues, les caravelles. Elles avaient trop soif, elles remontent en selle. Et comme à l'ancienne, elles font dans le recel. Viennent violer le sol et puis se feront la belle. On les connaît déjà, ces histoires-là. Seulement cette fois, tu vois, à Conga, ça ne s'avale pas. C'est coincé dans la chambre d'Atahualpa. Le robinet est sec, le lac a disparu et ses poissons avec. Il reste une flaque infuse, alors le linge est sale et les bêtes ont une soif qu'elles mastiquent et qu'elles râlent du fond de la carafe. Mais c'est quoi cette odeur? De quoi l'herbe a-t-elle peur? Ils ont tout vu les gens et bientôt sur leur peau il y a des crevasses, du sang et toutes sortes de grumeaux. Serait-ce comme qui dirait le mauvais sort, qui sans crier gare s'emparerait de leur porc et comme un cauchemar leur rongerait le corps? Non, non, non. Elles sont revenues, les caravelles. Elles avaient trop soif, elles remontent en selle. Et comme à l'ancienne, elles font dans le recel. Viennent violer le sol et puis se feront la belle. Elles ont trouvé l'or, l'or est dans la roche. Elles plantent le décor en sortant les pioches. Elles ont trouvé l'or, elles en veulent encore. On les croyait morts, les conquistadors. Ils rappliquent en force, ordonnent et triturent la terre, son écorce à coups de mercure. Et ils intoxiquent à coups de cyanure. Si c'est prolifique, c'est contre nature. Ils veulent les pépites, même au prix des vies de ceux qui habitent et mourront ici. Ils ont trouvé l'or, ils en veulent encore. Mais à Cajamarca, c'est l'eau, le trésor. Elles sont revenues, les caravelles. Elles sont revenues, Isabelle, avec leur cheptel de camions à pelle. Et ces formes-telles à se croire chez elles, qui s'entrequerellent des curatelles. Encore une fois, elles sont les premières. Encore une fois, elles laisseront entendre que ce sont elles qui ont découvert. Mais ici, la terre n'était pas à vendre. Un jour, peut-être, ce sera dans les livres. Ces histoires d'empire, de sbires et d'élixirs qui rappellent que sans or, au fond, tu peux vivre. Sans eau, tu peux que mourir.
Alors que les Pays-Bas, la France et l'Angleterre s'installent confortablement sur le pourtour de la mer des Caraïbes, l'Espagne est contestée dans ses colonies sud-américaines dès le début du XIXe siècle. Les réformes proposées par la métropole ne satisfont pas les pouvoirs politiques locaux favorables à plus d'autonomie, ni ne calment les velléités d'indépendance qui se font jour. Les guerres, dont la figure emblématique est Simón Bolívar, qui oppose entre 1810 et 1825 les armées espagnoles, et les revendications d'autonomie accrues se soldent par l'émiettement progressif de l'empire colonial espagnol en Amérique du Sud. Après l'indépendance du Paraguay, quelques années plus tôt, les Provinces Unies de la Plata proclament leur indépendance de l'Espagne en 1816, puis se scindent 10 ans plus tard entre Argentine et Uruguay. Le Chili accède à l'indépendance en 1818, le Pérou en 1821 et la Bolivie 4 années plus tard. Au nord de l'Empire, la Colombie naît en 1819 et le Royaume du Mexique en 1821. Après un peu plus de 10 ans, la Colombie se divise entre le Venezuela, l'Équateur et la Nouvelle-Grenade. Les frontières de cette dernière incluent l'actuelle Colombie, le Panama et la côte des Mosquitos au Nicaragua. Le Mexique se fracture entre le Mexique au nord et les Provinces Unies d'Amérique centrale après 2 ans d'existence. Les provinces centra-américaines se divisent en 1839 entre Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica et Nicaragua. Et le Mexique perd ses territoires du nord, Texas et Californie, dans la guerre qu'il oppose aux États-Unis d'Amérique dans la décennie 1840. Les dynamiques qui mènent à ces indépendances sont un mélange de revendications sociales pour les plus pauvres des hominines et une volonté d'émancipation des élites coloniales vis-à-vis de la métropole. Les pays naissants n'hésitent pas à se faire quelques guerres pour redéfinir leurs frontières. Ces luttes concernent presque exclusivement les hominines d'ascendance européenne, car les esclaves ne sont pas inclus et les Amérindiens sont traités avec mépris. Ces deux catégories sociales mènent leur propre lutte pour répondre à leur situation spécifique. Du projet bolivarien d'une grande Colombie regroupant les anciennes colonies espagnoles, il ne reste à sa mort en 1830 que la République de la Nouvelle-Grenade. L'opposition entre les partisans du fédéralisme et du centralisme, qui mena à l'indépendance du Venezuela et de l'Équateur, est toujours un sujet qui divise la République, parfois lors de guerres locales sanglantes. En 1858, une constitution fédéraliste la transforme en Confédération grenadine, puis de 1863 à 1886 en États-Unis de Colombie, regroupant 9 États, dont 8 constituent la Colombie et 1 le Panama actuel. À la fin du XIXe siècle, hormis leurs possessions caraïbes, la seule présence coloniale sur le continent sud-américain sont les Guyanes britanniques, hollandaises et françaises, qui deviendront respectivement le Guyana en 1966, le Suriname en 1975 et le département français de Guyane depuis 1948. En Amérique centrale, seul le Honduras britannique demeure une colonie jusqu'à son indépendance en 1981 sous le nom de Belize. Avec l'effacement de l'Espagne et l'influence relative des autres pays européens, l'Amérique du Sud devient une extension de la politique de la nouvelle puissance continentale, les États-Unis d'Amérique.
Rien jusqu'au recoin. Rien qui ne me fasse peur, rien qui m'exaspère. Aujourd'hui je ne fais rien. Je ne fais partie de rien. Un peu comme avant la naissance ou comme après le décès. Je suis devenu quelqu'un depuis que j'ai capté qu'au fond je ne suis rien. C'est déjà bien. Rien dans mon esprit, rien sur mon ordi. Aujourd'hui je ne sais rien. Je ne sais pas ce qui vient. Un peu comme avant la naissance ou comme après le dessert. Le verre est bien rempli depuis que j'ai capté qu'il était plein de rien. Rien qui intervient, rien qui me dérange, rien qui me démange. Aujourd'hui je ne suis rien, ni le vide que je contiens. Mais je suis conscient de mon absence, ça me rassure quand j'y pense. J'ai enfin changé le jour où j'ai capté que ça ne changeait.
Vicente Liscano naît en octobre 1879 à Chinacota, dans l'État fédéré de Santander. Composante des États-Unis de Colombie, ex-confédération grenadine, à la frontière avec le Venezuela, d'un père mystérieux, Bernardo Rojas, et d'une mère servante, Simona Liscano, issue d'une famille de paysans de Silos dans le nord de Saint-Andéar. Pour fuir la stigmatisation sociale d'avoir donné naissance à un enfant hors mariage, elle quitte Chinacota. Travaillant au palais épiscopal de Pamplona, elle élève seule son enfant, car le père est aux abonnés absents. Le jeune Vicente fait ses études secondaires dans cette ville, où il est un brillant élève en histoire, puis intègre l'école normale de Bucaramanga, où il poursuit ses études pendant 2 ans, avant de se faire expulser pour ses prises de position publiques dans un journal fait main contre un prétendant candidat aux élections présidentielles de 1898.
Tu n'as jamais eu de vrai talent. C'est de là que vient ton manque d'assurance. Tu es un monstre qui n'est rien d'autre qu'un camelot gominé, dont le nouveau costume est l'illustration même de la médiocrité. Je vais te dire quelque chose, et j'espère que tu vas m'écouter attentivement. Ta mère est la seule personne qui se souviendra de toi à jamais, et uniquement parce qu'elle a souffert le jour où elle t'a mis au monde, car tu es un être insignifiant et rien d'autre. Parce que la vérité, c'est que tu n'es pas capable, en tant qu'être humain, de donner à la société. Ton projet ridicule ne te rendra jamais immortel. Il ne nous sauvera pas. Il sera notre ruine.
Il quitte l'année suivante les États-Unis colombiens pour rejoindre le Venezuela, où il aide à l'ouverture de la première école publique de la ville de Capacho Nuevo, dans la province de Táchira, frontalière du Santander colombien. Décidé à prendre une part active aux secousses politiques qui traversent le Venezuela, il quitte tout et s'engage avec les troupes irrégulières de Cipriano Castro, qui parvient fin 1899 à renverser le président élu. Partisan d'une grande Colombie, économiquement libérale et anticolonialiste, Cipriano Castro chasse un nationaliste et conservateur et instaure un pouvoir centralisé et autoritaire. Ses réformes dans le domaine économique lui valent des critiques de la part de grands propriétaires terriens qui voient d'un mauvais œil la reprise en main par l'État de secteurs dominés jusqu'alors par les acheteurs européens. Pendant 3 ans, la guerre civile oppose les forces armées de Cipriano Castro et les unités combattantes mises en place par les grands propriétaires avec l'aide de certains États européens. Vicente Liscano se bat dans le nord-ouest du Venezuela et devient le conseiller de Cipriano Castro. Il obtient le grade de colonel. En désaccord avec les politiques autoritaires et l'absence de réformes sociales libérales, il s'éloigne de son ancien compagnon d'armes à partir de 1901.
Les promesses des hommes politiques dans ton cul n'engagent que ceux qui les reçoivent dans ta chatte. Les promesses des hommes politiques dans ton cul n'engage que ceux qui les reçoivent dans ta chatte. Donnons-nous l'objectif de vite réaliser dans ton cul 100% d'économie sur les dépenses publiques dans ta chatte. Une sanction pénale dès l'âge de 12 ans dans ton cul me semble correspondre au bon sens dans ta chatte. Dans ton cul, dans ta chatte. Il rit, il nous méprise. Il se marre, il se moque de nous. Dans ton cul, dans ta chatte. Dans ton cul, dans ta chatte. Il rit, il nous méprise. Il se marre, il se moque de nous. Ensemble, dans ton cul, tout devient possible dans ta chatte. Travailler plus dans ton cul pour gagner plus dans ta chatte. Il y a des libertés dans ton cul qui peuvent être facilement abandonnées dans ta chatte. J'ai menti dans ton cul, mais c'était de bonne foi. Ta chatte. Dans ton cul, dans ta chatte. Dans ton cul, dans ta chatte. Il rit, il nous méprise. Il se marre, il se moque de nous. Dans ton cul, dans ta chatte. Dans ton cul, dans ta chatte. Il rit, il nous méprise. Il se marre, il se moque de nous. ans dans ton cul. On va pas continuer à avoir la retraite à 60 ans dans ta chatte. Si on arrive à vivre 100 ans dans ton cul, on va pas continuer à avoir la retraite à 60 dans ta chatte. La liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. Dans ton cul, dans ta chatte. Dans ton cul, dans ta chatte. La liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. Dans ton cul, dans ta chatte. 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 Il rit, il nous méprise, il se marre, il se moque de nous. Dans ton cul, dans ta chatte. Dans ton cul, dans ta chatte. Il rit, il nous méprise, il se marre, il se moque de nous.
Les Britanniques, les Allemands, les Italiens et les États-Unis, principaux pays bénéficiaires du commerce vénézuélien, n'hésitent pas à tenter parfois des coups de force directs pour renverser le pouvoir, sans succès. Soucieux de préserver leur précaré sud-américain, les États-Unis œuvrent à écarter les puissances européennes. Ils tentent de déstabiliser le Venezuela et soutiennent les indépendantistes du Panama, qui réclament leur sécession de la République de Colombie, les anciens États-Unis de Colombie. La nouvelle constitution colombienne de 1886, plus centraliste, est le facteur déclenchant de la guerre civile qui oppose entre 1899 et la fin 1902 les libéraux et les conservateurs colombiens. La victoire de ces derniers aboutit à la proclamation d'indépendance du Panama en 1903 avec le soutien des États-Unis d'Amérique. Alors que des navires nord-américains protègent les eaux du Panama d'une quelconque attaque de l'armée colombienne, Vicente Lizcano propose ses compétences militaires pour aider à lutter contre les indépendantistes panaméens. Après avoir aidé les indépendantistes panaméens, les États-Unis d'Amérique entament en 1904 les travaux de percement du futur canal de Panama qui prendront fin 10 ans plus tard. Devant le refus colombien et les risques d'être emprisonné, il part en 1904 direction l'Équateur. Ce pays est alors sur le sentier de la guerre avec le Pérou, qui conteste le tracé des frontières et revendique des territoires équatoriens. Des affrontements irréguliers opposent les forces armées des deux pays dans les zones frontalières. Finalement, la guerre n'a pas lieu.
Je viens de partout et de nulle part. Je peux juste dire que je viens du monde. Entretien avec Biofilo Panclasta dans El Republicano, Bogota, 10 février 1911.
T'as vraiment cru que tu faisais le poids? Que deux abrutis comme vous pouvez arrêter un homme comme moi? Tu n'as rien pu faire, Johnny, étant donné que tu n'es rien. Tu es rien de rien. Tu as juste réussi à m'agacer comme un... comme un moustique qui bourdonne à mon oreille.
L'année 1904 est celle de l'abandon du basage santandérien pour Vicente Lizcano, qui, empruntant un obscur passage stirnérien, change son nom. Hourra pour la protivophilie. Dorénavant, il est Biofilo Panclasta. Non pas Monsieur Plancasta, mais Biofilo Panclasta. Comme deux parts indissociables de ce qu'il veut être. Basé sur des racines grecques, Biophilo, de bios, vivant, et philos, qui aime, signifie amant de la vie, et panclasta, construit sur pan, tout, et clasta, qui brise, signifie destructeur de tout. Au XIXe siècle, la langue française utilise le terme plancastite pour désigner un puissant explosif liquide sensible au choc. Une autre histoire raconte que, lors d'une rencontre en Italie avec Maxime Gorki en 1907, il sauve un petit animal sur le bord de la plage. Touché, Gorki lui dit qu'il ne devrait pas seulement s'appeler Panclasta, mais aussi Biofilo. Biofilo Panclasta, plus qu'un nom, est une manière d'être, de penser, d'agir, de sentir, d'aimer, de haïr, de tuer. C'est la synthèse de la contradiction que nous portons en nous. Qui n'a jamais eu l'envie profonde de tuer, de raser, de détruire tout? Nous avons tous un Biofilo Panclasta en nous, certains plus Biofilo que Panclasta. D'autres plus Panclasta que Biofilo.
Vas-y, brûle. Oh, ben, j'essaye, ça prend pas.
Mais vous faites quoi là? C'est ma poubelle ça?
Mais ça te regarde pas toi? Rentre chez toi.
Mais bien sûr que si que ça me regarde, c'est ma poubelle. Je fais le tri sélectif, c'est pas pour qu'il y ait des gens qui brûlent ma poubelle comme ça.
On fait des émeutes.
Des émeutes?
Pas suivi les trends sur TikTok.
Sur TikTok? Mais il est 10h du matin. C'est le soir les émeutes, non?
Bah non, mais en fait, le soir, il y a couvre-feu.
Ah d'accord. Donc vous, vous brûlez des poubelles, des voitures, mais vous respectez le couvre-feu, c'est logique.
Voilà. On fait du vandalisme en toute légalité.
Mais puis comme ça, on fait justice. Vas-y, allume là, parce qu'il se passe rien, ça me saoule.
Et justice?
Ah bah oui. Justice pour Noël. Hein?
Justice pour quoi? Justice pour Noël? C'est justice pour Naël, pas pour Noël.
Ah bon? Mais moi je croyais que c'était pour Noël, puisque c'est les courses gratuitement. T'es con quoi?
Très similaire à l'argumentaire développé par Ego Jules ou Max Stirner, cette dualité est résumée par Biophilo Panclasta, lui-même dans ce triptyque protivophile.
La révolution est je. Je ne suis personne et je veux que personne ne me suive. Je ne crois et n'affirme rien.
Son rejet catégorique se base essentiellement sur une volonté absolue d'égalité entre les hominines. Rien n'est au-dessus de cela. Une forme d'individualisme intransigeant qui n'assimile ni au nihilisme qui lui donne mal à la tête, ni au terrorisme dont il se dit terrorisé. Vagabond, Biophilo Panclasta erre dans le nord de l'Amérique du Sud, puis rejoint l'Argentine en 1906. Bien que l'anarchisme soit présent en Colombie depuis la fin du XIXe siècle, sous la forme de journaux ou d'associations, il reste plus discret qu'en Argentine. Et rien ne dit que Biophilo Panclasta soit en contact avec cette mouvance politique, même s'il affirme que gouverner est aussi répugnant que d'être gouverné. Ce qui est le credo anarchiste. À son arrivée en Argentine, il se lie avec des membres de la puissante organisation syndicale anarchiste qui est la Fédération ouvrière régionale argentine, FORA. Il participe à des réunions et à quelques journaux. Il se sent très proche de l'idéal anarchiste pour moult raisons, mais il s'en démarque pour des aspects idéologiques.
Je ne suis pas, moi, un anarchiste. Moi, je suis moi. Je ne quitte pas une religion pour une autre, un parti pour un autre, un sacrifice pour un autre. Moi, je suis un esprit libéré, égotiste. J'œuvre comme je le ressens. Je n'ai pas d'autre cause que la mienne. Lettre datée du 15 avril 1910.
Membre de la délégation de la FORA, il part en 1907 en direction de La Haye aux Pays-Bas pour participer au congrès international anarchiste prévu en août. Arrivé en Espagne, il traverse l'Europe pour rejoindre les Pays-Bas. À Paris, il prend contact avec le journal Les Temps Nouveaux, dirigé par Jean Grave, et rencontre Kropotkin. Arrêté pour un resto basket, il est brièvement incarcéré puis expulsé. Le resto basket est un concept philosophique qui affirme qu'il est préférable de perdre quelques gouttes de sueur à fuir l'addition en courant que d'en perdre des litres en travaillant pour pouvoir la payer et partir en marchant. Son passage sur Paris ne laisse pas un souvenir impérissable. Un proche de Kropotkin dit qu'il ne veut rien avoir à faire avec lui. Il rejoint les Pays-Bas par ses propres moyens. Resté dans ce pays après le congrès anarchiste, il intervient début décembre lors d'une conférence intitulée « L'anarchie contre la vie », où il accuse les intervenants de ne pas être anarchistes et de ne rien comprendre à la chose. Il est brièvement arrêté.
Aujourd'hui, je me suis levé, j'étais chill et motivé. Ça a tenu 22 minutes, à 10h je voulais qu'on bute. Bon, bah super. Faut pas se rouler sur les réseaux, car ça défonce le cerveau. J'ai lu des tas de trucs sur ça, en scrollant sur Insta. Bon, bah super. J'ai mis BFM TV.
Bon, vas-y.
tête pour dire que la terre est plate. Bon ben super, bon ben super. La mer est pleine de plastique, pour la nettoyer sur terre, on fabrique des bacs en plastique qui finiront dans la mer. Bon ben super, bon ben super. En gros le monde va bien je crois, si c'était pas le cas ça serait. Y aurait des galères de climat, des pandémies, des feux de forêt, des pénuries de haies de neurones, des violeurs qui deviennent ministres, l'extinction de la moitié de la faune, Britney Spears à poil qui tuise, des mecs cons comme des briques, des tiendraient la bombe atomique, ces news feraient des scores de tarés, des gens écouteraient qui devaient, mais personne n'a l'air de s'alarmer, donc à mon avis tout va bien, tout va bien. La scène est clean comme du Perrier, la fin du monde est encore loin. Bon bah super. Bon bah super.
Jusqu'au début de 1908, il parcourt l'Europe, traversant la Belgique, l'Italie, la Suisse, la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas et l'Espagne. De courtes étapes lors desquelles il dit rencontrer aussi Jean Grave, Sébastien Faure, E. Armand, Errico Malatesta et François Ferrer. Des biographies imaginaires parlent de rencontres avec Ravachol ou Élisée Reclus, morts respectivement en 1892 et 1905. Voire d'une évasion de Sibérie avec le camarade Lénine. Il dit avoir rencontré le jeune braqueur Joseph Staline de passage en Allemagne. Les informations concernant d'hypothétiques voyages à l'est de l'Europe sont peu fiables. Arrêté en Espagne à la demande des autorités colombiennes, il est expulsé par bateau vers l'Amérique du Sud. Lors d'une escale à Puerto Colombia, avant d'arriver à Bogota, Biofilo Panclasta parvient à s'enfuir et à rejoindre le Panama. Une nouvelle fois, il est arrêté et transféré aux autorités colombiennes qui l'incarcèrent quelques mois dans la région frontalière, entre Panama et Colombie vers la fin 1908. Libéré, il annonce la parution prochaine du journal El Anticristo, mais est de nouveau arrêté et au prétexte de la nationalité de sa mère, il est emprisonné à Cartagène en 1909, puis renvoyé vers le Panama où il est incarcéré à la prison de Colón. Finalement, la Cour suprême de la justice de ce pays décide de son expulsion en décembre de cette année. Il est abandonné à la frontière. Les autorités colombiennes l'emprisonnent de nouveau en 1910 à Barranquilla, puis l'expulsent vers Curaçao, une île néerlandaise au nord de la Colombie qui se débarrasse rapidement de l'individu encombrant. La Dominique l'expulse aussi, retour en Colombie. Accusé de perturber l'ordre social avec ses idées révolutionnaires, il est envoyé en 1911 à la prison de Bogota, d'où il parvient néanmoins à faire publier deux entretiens dans des journaux. Transféré à Carthagène, il y écrit en 1912 un texte intitulé « Et rêve d'ambition », qui paraît dans un journal de Bogota où il explique, avec une dialectique biscornue et quelques préconçus masculins, que le combat féministe se doit de prôner l'égalité totale et que ce combat se mène ensemble avec les hominines mâles. Pour lui, seul ou seul eux, il n'y a rien à attendre. Le même numéro publie « Éphémère », un poème écrit après sa sortie de prison et signé le 30 mars 1912, des rivages de Magdalena, sur la côte caribéenne de la Colombie.
Marihuana. Andas marihuano es cosa buena para tu cuerpo lo que necesita. Marihuana, 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 brujería. Si te cansas de esta hierbita, marihuana, cocaína, marihuana. Chíngate una grapa de la fina. Buscas remedio, gasta la neta, compra onza y medio. Saca un chingo, hazte un leño. Marihuana, andas crudo, buscas remedio. Gasta la neta, compra onza y medio. Saca un chingo, hazte un leño. Marihuana, 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 brujería. Si te cansas de esta hierbita, marihuana, marihuana, cocaína. Chíngate una grapa de la fina. Marihuana tiene el manito. Los pendejos buscan polvito, abrazo te pones drogadito y te hagan con dos kilos. ¡Ay! Marihuana, brujería, marihuana, brujería tiene marihuana, marihuana me cojo tu hermana.
Depuis sa libération en 1912, Biofilo Panclasta multiplie inlassablement ses critiques systématiques contre les autorités politiques et poursuit son œuvre de destruction. En 1914, il décide de retourner au Venezuela après 10 ans d'absence. À l'été, quelques semaines après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il est arrêté dans le nord du pays sous un prétexte fallacieux à l'instigation de l'ex-président vénézuélien. Celui-là même qui prit le pouvoir en 1908 en chassant Cipriano Castro arrivé à la présidence presque 10 ans plus tôt avec l'aide de Biofilo Pancalasta. Que ce soit par simple vengeance ou parce qu'il est véritablement considéré comme dangereux, Biofilo Pancalasta est envoyé à la prison de Valencia dans le nord vénézuélien. Les prisonniers, qui m'avaient vu pénétrer dans la cellule, prirent soin en entrant de ne pas se heurter à mon corps évanoui et froid. L'un d'eux, de sa main, palpa mes chairs, qui n'en tressaillirent pas pour autant, car j'avais déjà souffert toutes les douleurs possibles. Puis, constatant que je ne bougeais ni ne parlais, il proclama, tristement et à voix basse, « Celui-là, ils l'ont pendu au commissariat et ils l'ont porté ici pour mourir. » La prison de Valencia est un vaste mouroir où s'entassent des prisonniers faméliques souffrant de troubles psychologiques, malades ou abîmés. Les conditions sanitaires sont déplorables et les prisonniers sont exposés en permanence aux violences de la matonnerie. Dans ce lieu d'enfermement, échouent tous les hominines que le président vénézuélien décrète ennemis. Réformateur de l'économie, proche des intérêts européens et instigateur de grands travaux d'infrastructure, routes et voies ferrées, ce despote gère le pays avec une main de fer. Son opposition, réelle, supposée ou fantasmée, est pourchassée. Pendant 7 ans, Biofilo Panclasta va endurer les mauvais traitements avec de nombreux autres prisonniers qui partagent son sort. Beaucoup meurent de maladie, de faim, d'autres sombrent dans la folie. Quelques-uns sont libérés. Très affaibli par ses conditions de détention dans ses cachots, Biofilo Panclasta est transféré en 1901 à la prison de Puerto Cabello, puis libéré quelques mois plus tard. Il relatera en 1932 ses années d'emprisonnement dans un livre titré « Cette année enterré vivant » dans un des cachots du Gomezuela. Gomezuela est un jeu de mots entre Gomez, le nom du président vénézuélien, et Venezuela.
Un jour que je me promenais tout le long du canal, je vis un brave pêcheur assis au bord de l'eau. J'ai dit alors sa mort, il me répondit pas mal, vous savez, c'est ma ligne qui fait tout le boulot. Je ne fais rien, je me repose, je suis très heureux ainsi. Je ne fais rien, je me repose, j'ai pas de sous, mais j'ai le pas de soucis. Tout près de la Concorde, j'ai rencontré mon député qui faisait quelques pas, histoire de digérer.
J'ai dit la politique, c'est un drôle de métier. Il m'a dit c'est pas à moi d'en décider. Je ne fais rien, je me repose, je suis très heureux ainsi. Je ne fais rien, je me repose, j'ai pas de sous mais j'ai pas de soucis. Dans les encombrements, pour une fois, il y avait un agent. Les voitures klaxonnaient et lui il s'en foutait. J'ai fini mon service et c'est pas mon quartier. Ce bouchon, c'est pas moi de le déboucher. Je ne fais rien, je me repose, je suis très heureux ainsi. Je ne fais rien, je me repose, j'ai pas de sous mais j'ai pas de soucis. Quand je vais quelque part, je n'ai jamais à m'inquiéter. Y'a mon impresario qui a tout arrangé. T'as pas grand chose à faire, dit-il, tu n'as plus qu'à chanter. Uniquement lorsque l'argent est encaissé. Tu fais rien, tu te reposes, tu es très heureux ici. Tu fais rien, tu te reposes, t'as pas de sous mais t'as pas de soucis. Je ne fais rien, je me repose, je suis très heureux ainsi. Je ne fais rien, je me repose, j'ai pas de sous mais j'ai pas de soucis. Je ne fais rien, je me repose, je suis très heureux ainsi. Je ne fais rien, je me repose, j'ai pas de sous, mais j'ai pas de soucis.
Les prédictions des témoins de Jéhovah, qui fixent la fin du monde en 1914, puis en 1915, et finalement en 1916, sont rendues caduques par la réalité des choses. Biophilo, Panclasta est bien vivant. Lui qui espérait tant que le monde prenne fin de lui-même. Il abandonne ses prétentions pacifiques pour modifier le cours de l'histoire tragique des hominines. Et repense l'articulation entre l'individu et le collectif. Non plus vu comme une coercition, mais comme un moyen pour activer l'effondrement. En 1923, il se rend à Barcelone, pour un congrès anarchiste en tant que membre de la délégation de l'Association anarchiste mexicaine. Il propose un large plan d'attaque coordonné appelé Opération Europe, qui vise à déstabiliser l'ensemble des pays de ce continent.
Constituer un comité international chargé d'ordonner, planifier et mettre à exécution en un seul et même jour l'assassinat du tsar de Bulgarie, de l'empereur d'Angleterre, du roi d'Italie, du roi d'Égypte, de l'archevêque de Mexico, du président de la France, du cardinal archevêque de Tolède et de Léon Daudet.
Bien que s'ancrant dans une longue tradition anarchiste d'assassinat de personnalités politiques, cette proposition n'est pas retenue. Et malgré la tentative de Germaine Berton de le tuer, Léon Daudet court toujours. De retour en Amérique du Sud, il se rend au Brésil pour soutenir une grève dans une plantation de café près de Sao Paulo. Mais arrêté en 1924, il est transféré dans la prison d'Oyapoque, à la frontière entre le Brésil et la Guyane française. Parvenant à s'évader, il franchit la frontière et se réfugie à Cayenne. Pris en charge par la Ligue des droits de l'homme, il est évacué vers la petite île de la Martinique, un des territoires français de la mer des Caraïbes.
J'accepte le goût modifié de mon café au lait. J'accepte les couleurs à la mode cet été. J'accepte de vivre dans 28 mètres carrés. J'accepte la tête des présentateurs télé. J'accepte de faire la queue. J'accepte d'être informé. J'accepte les antidépresseurs, la sonnerie des portables, le sourire du boucher. J'accepte de m'habiller pour aller travailler. J'accepte tout ce que je désire. J'accepte les discothèques. J'accepte tout ce que j'aime. J'accepte les odeurs de déodorant et de transpiration bon marché, mélangées dans les ascenseurs, c'est sûr. J'accepte les vacances programmées. J'accepte de ne faire que visiter. J'accepte les sandalettes en plastique et les chaussettes, la musique au supermarché, en effet. J'accepte les sandwichs emballés. J'accepte de parler sans savoir. J'accepte de voir les choses en grand. Et pourtant, j'accepte qu'il n'y ait qu'un seul gagnant pour 30 millions de participants. J'accepte la tête des clients, les caniches incontinents sur le trottoir, le visage des mendiants. J'accepte le samedi soir. J'accepte tout le temps, c'est systématique. J'accepte la vaisselle en plastique. J'accepte la vitesse limitée. J'accepte mon voisin musicien qui joue de la gratte électrique. J'accepte de croire que demain tout ira bien. J'accepte le doublage des cascades dans les films érotiques italiens. J'accepte d'être à 200%. J'accepte d'avoir le profil du gagnant, car j'accepte de le contrebalancer par une obséquiosité sans limite, je le jure. J'accepte la couleur du futur, mais je n'accepte pas qu'on touche à ma voiture.
La grève des ouvriers dans le secteur pétrolier entamée en janvier 1927 s'étend à plusieurs villes colombiennes et dure pendant presque un mois. L'état d'urgence décrété par les autorités disperse les milliers de grévistes et les arrestations se multiplient. Des syndicalistes et des ouvriers, dont Biofilo Panclasta, sont envoyés à la prison de San Gil. Il y fait la rencontre du syndicaliste Raoul Maecha, accusé d'être l'un des instigateurs de la grève, et les deux hominines sympathisent. Les grévistes sont libérés en juillet. Motivé par de nouvelles perspectives de mettre fin à ce monde honni, Biofilo Panclasta lance en 1928 le Centre d'Union et d'Action Révolutionnaire, dont le slogan, emprunté au couple de poètes Karl Marx et Friedrich Engels, est déchiqueté par la panclastite et « Révolutionnaire de tous les idéaux, unissez-vous ». Les moyens d'arriver à cela restent mystérieux et la pertinence discutable, comme le démontre très bien le surveillant de prison en chef Lénine.
Ce qui est absurde à propos de Lénine, c'est qu'il a voulu réaliser des idéaux dans la pratique. L'homme doit vivre des idéaux, pas des actes. Que reste-t-il d'un idéal réduit à un acte pratique? Comment continuer à lutter pour lui? L'erreur philosophique du communisme est enracinée là-dedans. En tant qu'idéal, il est parfait. Comme acte pratique, il est impossible. Tant que c'est un idéal, vous devez vous battre pour cela. Quand c'est un acte pratique, vous devez le combattre. Aussi, réduire le communisme, qui est l'ambition suprême des prolétaires, à un acte pratique, étrangle la liberté, qui est l'ambition suprême de l'humanité. C'est pourquoi je suis anarchiste, parce que je place la liberté au-dessus de toutes les conditions de la vie humaine. Journal El Tiempo, février 1939.
En 1929, paraît « Mes prisons, mes exils, ma vie », une autobiographie de Biofilo Panclasta, chez un éditeur colombien. Et 3 ans plus tard, est publié « 7 ans enterrés vivants dans un des cachots du Gomezuela », le récit d'une période de sa vie faite de souffrances qui ont largement entamé sa santé. Fatigué et usé par ses années de vagabondage et de geôle, il se contente d'écrire des articles dans quelques journaux et d'envoyer des lettres à des politiciens sud-américains. Il s'installe à Bogota en 1934 avec une ancienne nonne devenue voyante. À la mort de sa compagne en 1939, Biofilo Panclasta sombre dans la misère et dans l'alcool. Il est envoyé dans un asile pour vieillards où, après une première tentative de suicide par électrocution, puis une seconde en se tranchant la gorge avec un canif, il meurt d'une crise cardiaque le 1er mars 1942.
Pour la dernière fois, et au bord de la tombe, je nie l'existence de Dieu. Extrait du dernier texte écrit par Biofilo Panclasta entre ses deux tentatives de suicide.
La vie et la personne de Biofilo Panclasta sont à son image, mystérieuse et fantasque. Difficile de retracer avec précision l'ensemble de son parcours, tant les informations sont fragmentaires, contradictoires, voire insolites. Son voyage en Europe est la source d'histoires impossibles à vérifier. Nul ne peut affirmer si les rumeurs qui entourent Biofilo Panclasta sont du fait de ses détracteurs, de ses propres arrangements avec son histoire personnelle, ou de simples élucubrations. S'il est probable qu'il ait pu rencontrer Staline ou Lénine lors de leur exil ou passage en Europe de l'Ouest, il n'est chronologiquement pas possible qu'il ait participé à l'évasion de Sibérie de l'un ou l'autre. Staline s'enfuit en 1904 après 2 années d'exil sibérien et Lénine y séjourne de 1897 à 1900. Dans un cas, Vicente Liscano, qui devient alors Biofilo Panclasta, est en Équateur et dans l'autre, il est au Venezuela. Les autres rencontres mentionnées par Biofilo Panclasta avec Gorky ou Malatesta, par exemple, ne sont pas corroborées par les concernés eux-mêmes qui ne le mentionnent pas. Pour autant, cela ne signifie pas que ces rencontres n'aient pas eu lieu, mais qu'elles ne furent sans doute pas aussi marquantes pour l'un que pour les autres. L'un des biais de l'individualisme n'est-il pas, parfois, de présenter et percevoir l'existant de manière autocentrée? Bien au-delà de l'individualisme ou apparenté, l'autobiographie est toujours un miroir déformant.
Oh putain, il arrive.
On est en train de parler de sa vie pendant des
heures. T'inquiète, on va lui faire passer un message.
Ok, t'as raison, mais comment?
Attends, il arrive.
Hey!
Yes! Ouais, et du coup, je te disais, tu vois, Clément, il est insupportable, égocentrique, un melon comme ça, j'en peux plus.
C'est exactement ce que je me disais hier. Le mec, il rapporte tout à lui-même, il peut pas passer une journée sans lui.
C'est insupportable, ces gens-là. Bah moi je déteste.
Moi j'aime bien les gens, tu vois, qui portent l'attention sur les autres un peu. Moi j'aime bien faire ça, tu vois. Moi je m'intéresse beaucoup à la vie des autres, c'est vrai. Parce que tu sais quoi, je pense que c'est parce que je suis issu d'une famille nombreuse. Et ça du coup, c'est comme une seconde nature de s'intéresser à l'autre finalement. Et puis vu que j'avais fait un stage en BTP, eh ben, le travail d'équipe, je peux te dire que ça forge un homme. Hein. Mmh. Les gens me qualifient souvent comme ça, comme quelqu'un d'altruiste au final. Et d'ailleurs, t'as liké ma dernière photo Instagram toi?
Je pas Instagram moi.
Ah, t'as pas Instagram?
Non.
Non. Mais t'es con, je poste des trucs de moi tout le temps. Je vais te montrer. Attends, ça c'est ma story. C'est hier quand j'ai fait du sport, tu vois. Ouais. Voilà, t'as vu, j'ai un nouveau jogging, c'est pas mal. Voilà. Regarde, tu peux regarder si tu veux. Ça c'est ce matin, j'ai le petit déjeuner, tu vois. J'ai fait du muesli avec des fruits secs. Regarde, ouais. Si tu vois pas. Si tu vois. Et le lait, alors c'est un lait de noisette. Voilà. Ça, putain, ça c'est hier quand j'ai fait les courses à Lidl. Voilà, c'est bien Lidl, hein. C'est cool.
À l'image de F. Merjanov, des pans entiers de la vie de Biophilo Panclasta sont tout aussi inconnus qu'il ne l'est lui-même pour la plupart des hominines. Sans attendre les résultats de la vaste étude menée par la protivophilie auprès des hominines de Nice, il est d'ores et déjà possible d'affirmer que l'évocation du Venezuela rappelle le footballeur Hugo Chavez et que la Colombie, dont la capitale n'est toujours pas Medellín, est pour la plupart synonyme de la youtubeuse Shakira ou du nightclubber Pablo Escobar. Et à la question F. Merjanov, la réponse est rien.
Sur rien, le quatrième mardi du mois à 17h, le vendredi à 9h30. 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 de Gonge-Vigan.